La solitaire
du Figaro, c'est sur Radar.
La solitaire du Figaro, c'est sur Radar. C'est en plein cœur de, bah, du village de la solitaire du Figaro à Fécamp. On est en compagnie de Warren qui est parti un peu en repérage plus ou moins à droite à gauche. Mais bon, il va revenir dans quelques instants. On vous a annoncé Arnaud de GRDF. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
J'ai pas mis le nom de famille derrière. On garde Arnaud, ce sera très bien.
C'est top.
Voilà. Merci d'être là dans notre studio mobile à Ransort, Radar, etc. Alors, Arnaud, toi, ça fait bizarre d'avoir quelqu'un d'un grand groupe GRDF. Pourquoi on est là avec un grand groupe alors qu'en général, on s'intéresse aux actions des petites assos qui font des efforts. Là, on vient de recevoir Run Eco Team avec Jean-Marie qui nous parle un petit peu du ramassage des déchets, etc. Et on a un grand groupe GRDF qui vient nous voir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit tu, hein. je me suis permis.
Non. On va se tutoyer, pas de souci. Pourquoi? Parce qu'on est très très proche des territoires. Déjà, on exploite un réseau de gaz qui ne nous appartient pas, hein, qui appartient aux collectivités locales. Et puis, on est en train de vivre une révolution chez GRDF, hein, parce qu'avant, ce qu'on véhiculait dans les réseaux de gaz, c'était du gaz qui est importé, hein, on continue d'ailleurs. Mais de plus en plus, on souhaite le remplacer par du gaz vert produit localement par essentiellement des agriculteurs.
Alors, on explique bien et on précise bien qu'on n'est pas là pour servir la soupe ou faire de la pub sous couvert d'eux, etc. Au contraire, on s'intéresse parce que on parle d'écologie, forcément, on est dans une ville nautique. On a une solitaire du Figaro avec des skippers qui sont impliqués dans l'écologie et... Pas juste un tout petit peu, parce que vraiment ça les concerne d'autant plus, sachant que eux voient les déchets qu'on rejette, comme disait si bien Jean-Marie tout à l'heure, les déchets qu'on voit en mer sont ceux qui sont jetés à terre. Donc là, en fait, c'est pareil, on rentre dans cette espèce de cercle, on tente un cercle vertueux avec le gaz. Comment ça marche? J'ai vu des panneaux méthanisation, etc. C'est des mots un peu complexes, on va essayer de vulgariser tout ça.
Ben c'est tout simple finalement, la méthanisation, on est tous acteurs, entre guillemets. Le fonctionnement, c'est de mettre des intrants. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des intrants, c'est un bien grand mot, c'est par exemple des effluents d'élevage ou des biodéchets par exemple, des restes de cantine ou autres.
Dans un... Des effluents d'élevage, c'est du caca de vache.
C'est ça.
Voilà, qu'on soit clair.
Du voilà, donc on va mettre tout ça dans une grosse marmite.
Potion magique.
Exactement, donc on va donner à manger à cette marmite. On va mettre ça, tout ça privé d'oxygène à 38 degrés pendant 2 mois. Mmh. Et à la fin, on en retire 2 choses, du biogaz...
Ouais.
Et puis du digesta, ça va être de l'engrais naturel qu'on va épandre dans les champs. Cet engrais, ce digesta n'a pas d'odeur. Mmh. Et puis le biogaz, on va l'épurer, on va séparer les différents gaz qu'il y a. Et majoritairement, il est composé de méthane. Mmh. Et le méthane, c'est exactement la même chose que ce qu'on importe, qui est fossile quand on l'importe. Hein. Là, ça va être du gaz vert produit localement. Et donc on va l'injecter dans les tuyaux, tout simplement. Et donc ces unités de méthanisation, elles sont portées par des porteurs de projets. Et porteurs de projets, c'est soit un agriculteur, soit plus un groupement d'agriculteurs qui investissent dans cette unité pour avoir une diversité de revenus, tout simplement.
Alors j'imagine qu'il y a des études qui ont été faites pour savoir si ça va valer vraiment le coup de faire ça, parce qu'on sait que d'aller forer, d'aller chercher du gaz, ça a un certain coût. Est-ce que ça coûte moins cher de le produire de cette manière? Est-ce que c'est à coût équivalent? Comment ça se passe?
Alors, pour l'instant, comme toute technologie qui se lance, pour l'instant, je dirais que c'est plus onéreux. Donc, les porteurs de projets ont un tarif d'achat qui est subventionné. Mmh. Voilà. Mais l'idée, c'est bien, après quelques années, d'arriver à un prix du gaz produit localement qui soit compétitif par rapport au gaz que l'on importe. Voilà. Donc ça va être des économies d'échelle, mais pour l'instant...
Toute l'innovation est toujours un peu coûteuse au départ.
Exactement. Okay. Exactement.
Excuse-moi, non mais vas-y, si,
non, 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 mais
on y est. Donc, alors, comment ça se passe? Parce que vous, GRDF, j'avais une question aussi, c'est est-ce que les industriels, que ce soit GRDF comme n'importe quel industriel en général, on va parler de circuits automobiles ou de choses comme ça, est-ce que les industriels se commencent vraiment sincèrement à se mettre à la page quand on voit que, par exemple, quand on entend, quand on lit des articles qui nous disent la voiture électrique, c'est pas si écologique que ça, parce que ça pollue, parce que les métaux précieux qui sont à l'intérieur sont très difficiles à aller chercher, parce que ceci, parce que le recyclage de ces batteries, c'est compliqué. Là, on part sur de la méthanisation, on va s'approcher de certains agriculteurs pour essayer de ceci, cela. Est-ce qu'il y a une prise de conscience réelle des industriels en général?
Alors, les industriels, effectivement, la notion d'écologie, elle est en train de faire son chemin, et ils veulent tous moins rejeter de CO2 et avoir une empreinte carbone qui soit beaucoup, beaucoup plus faible.
Et puis, on a des objectifs à atteindre par rapport aux accords de Paris.
Exactement. Et chaque collectivité aussi a des objectifs et s'est fixé une feuille de route pour être moins... moins polluant, tout simplement. Donc oui, pour revenir aux industriels notamment sur la mobilité, je dirais que la meilleure façon de ne pas polluer, ça va être de moins
consommer, consommer plus intelligemment,
ça,
peut-être.
C'est évident. Après, je dirais que chaque énergie a son intérêt. En fonction du véhicule, si on prend la mobilité, si on fait des tout petits trajets avec un véhicule léger, le véhicule électrique peut vraiment avoir sa place. Par contre, si on est un industriel et qu'on utilise des poids lourds avec vraiment beaucoup de transport de marchandises, là, on s'imagine bien que mettre des tonnes de batteries pour faire bouger le véhicule, ça ne va pas être la solution. Et là, le gaz a tout son intérêt. Mmh. Effectivement, pour tout ce qui est transport de marchandises, transport de voyageurs avec des gros véhicules, là, le gaz, et notamment en utilisant du biogaz, on va être avec des taux de rejet de CO2 qui vont être 80% de moins de CO2 par rapport au diesel.
Ah oui, c'est énorme.
Voilà, et surtout aussi au niveau des particules fines, on va pratiquement éliminer les particules fines en termes de rejet. Donc il y a un véritable intérêt en termes de santé publique,
ouais,
et puis de préservation de la planète.
Alors, on parlait des agriculteurs. Est-ce que ce sont les agriculteurs qui sont venus frapper à la porte de GRDF en disant « Eh, mais vous savez qu'on a une solution ?» Ou est-ce que c'est GRDF qui a été voir les agriculteurs en disant « Vous pourriez pas nous filer du gaz ?» Dans quel sens ça a marché?
Alors,
je simplifie vraiment le truc.
Pas de souci. Alors, la méthanisation, c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, la décomposition de déchets organiques, ça s'est toujours fait. Dans les marais, on voyait des feux follets, donc ça existait, premièrement. Le principe est vieux comme le monde. Deuxièmement, nous, en France, on est légèrement en retard. C'est-à-dire qu'en Allemagne ou en Belgique, la méthanisation a pris son essor il y a plus de 20 ans maintenant. Nous, c'est relativement récent, ça a un peu moins de 10 ans. Et donc, forcément, GRDF souhaite que le gaz qui est véhiculé dans les réseaux soit de plus en plus vert. Et donc, on accompagne la filière. On n'est pas les seuls. Notamment en Normandie, on a Méta Normandie qui regroupe la région, l'ADEME, les chambres d'agriculture, les syndicats d'énergie, la DREAL, et donc GRT Gaz, par exemple. Et on est tous ensemble pour valoriser cette filière et accompagner les agriculteurs qui ont des projets. Alors ces agriculteurs-là, généralement, ils sont à la recherche de diversification et donc ils ont des problématiques d'épandage, d'effluents d'élevage. Ils se disent comment je peux valoriser cette matière et ils ont l'idée de faire de la méthanisation. Et là, ils viennent nous voir pour savoir où se situe le réseau, pour pouvoir injecter leur production de biogaz. Et puis, ils vont chercher des informations pour pouvoir monter leur projet. C'est un projet quand même qui est assez important, hein, avec un investissement lourd et qui les engage sur une quinzaine d'années. Donc, voilà, ils viennent nous voir et je dirais qu'on travaille de façon de façon coopérative, entre guillemets, mais c'est bien leur projet et nous, on va accepter leur production si elle correspond aux standards. Et on a tous à y gagner, c'est-à-dire qu'eux, ils trouvent un intérêt et nous, dans les tuyaux, il y aura de l'énergie renouvelable. Et encore une fois, ça fait de l'économie circulaire, de l'énergie locale. Et on sera moins dépendant finalement des pays vers lesquels on est amené à aller chercher ce gaz. Hein.
Alors c'est bien souvent des coopératives agricoles qui amènent la chose. Parce qu'un agriculteur tout seul, c'est vraiment un coût, c'est quelque chose d'assez compliqué pour eux, non ?
Oui, effectivement, généralement c'est plusieurs agriculteurs. Voilà, et lorsqu'ils sont organisés, notamment ce qu'on appelle en CUMA, en coopérative, où ils se prêtent depuis des années du matériel, ils achètent en commun du matériel, c'est déjà plus facile parce qu'il y a un groupe qui est constitué et puis ils ont l'habitude de travailler ensemble. Mmh. Donc on voit que ces projets-là mettent souvent moins de temps à arriver parce que le processus est quand même assez long.
Il y a des démarches
administratives qui sont très très lourdes. À juste titre, hein, puisque c'est quand même une unité qui représente de l'investissement, mais aussi des réglementations.
Oui, mais comme tu disais, voilà, il y a des normes. Avant que ça rentre dans les tuyaux, il faut quand même que le gaz qui est produit soit validé, on va dire.
Exactement, soit épuré. Et donc, oui, il y a aussi une démarche de certification avec la DREAL. La préfecture donne son accord pour mettre en route ces installations. Et donc, les démarches administratives sont relativement longues.
Voilà, donc d'où l'intérêt de s'unir pour simplifier un petit peu la chose pour tout le monde. Quoi.
Exactement. Tout seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin.
C'est ça. Après, on disait qu'il y avait ce côté un peu complexe. Par contre, l'investissement, j'ai envie de dire, envoie un peu la chandelle, puisque derrière, l'agriculteur se retrouve à avoir un bénéfice supplémentaire sur sa production. Notamment, alors que ce soit du produit laitier comme ça peut être de la céréale ou autre, il récupère déjà le fruit de son exploitation au départ. Plus, est-ce qu'il est rétribué sur le comment ça marche pour le retour ?
Il va vendre son gaz à un fournisseur d'énergie. Mm-hmm. D'accord, ils sont très très très, très nombreux à vouloir donc du gaz vert, à acheter du gaz vert. Et donc pour lui, ça a un intérêt effectivement financier. Maintenant, il fait un investissement qui est lourd, donc il faut le rentabiliser. Ça, c'est une évidence. Et surtout, un agriculteur, il y voit un intérêt, c'est que lorsqu'il a son activité classique agricole, il ne sait pas, par exemple, s'il produit du lait ou s'il produit de la pomme de terre, à combien il va vendre sa production à 2 mois. Mmh. Donc il a une visibilité qui est relativement courte. Alors que là, avec ce genre d'installation, il a un prix d'achat du gaz qui est garanti pendant 15 ans. Mmh. Voilà. Donc là, c'est un changement pour eux puisqu'ils ont vraiment une visibilité.
Et pourquoi ils font pas la même chose avec le lait ou les betteraves ou les carottes ?
C'est une bonne question.
C'est une bonne question dont tu n'as pas la réponse, évidemment.
Il y a des aléas en termes climatiques, en termes qui sont beaucoup plus durs à maîtriser, en tout cas.
Bah oui, voilà. Fatalement, ouais. Voilà. Du côté, ouais, t'as une question, petite Warren. Pendant que tout s'envole.
Non, vas-y.
T'as oublié ta question, tu sais plus, t'as été perturbé, j'ai l'impression. Alors.
Je ramasse tout.
Donc, du côté JRDF, alors on a vu le côté agriculteur, etc., producteur, du côté JRDF, comment ça se passe ? Est-ce que c'est. Parce qu'on sait que. Tu me dis si je me trompe, mais la production française, on est obligé en fait d'importer du gaz.
Oui, actuellement, la
consommation qu'on a, elle vient de Russie, majoritairement.
Non, De Norvège. Effectivement, le plus gros importateur ou les plus gros gisements de gaz dans les tuyaux exploités par GRDF, c'est du gaz de Norvège. Ensuite, effectivement, viennent l'Algérie, la Russie, le Qatar.
Voilà. D'accord. Voilà, ça, c'est les importations principales.
Les principaux importateurs de gaz.
Donc produisons français, en gros, c'est ça que ça a envie de dire.
C'est ça, hein, parce que c'est de l'emploi, c'est un relais de croissance pour les agriculteurs, ça va être effectivement de l'enracinement aussi de l'agriculture, c'est-à-dire que l'agriculteur qui va investir pendant 15 ans ici, généralement en plus, c'est très drôle, c'est-à-dire que les agriculteurs qui investissent dans ce genre d'unité, c'est soit... des agriculteurs assez jeunes, d'ailleurs 30-35 ans, issus d'écoles d'ingénieurs, et c'est la deuxième ou troisième génération, ou soit des agriculteurs qui ont une cinquantaine d'années et qui voient leurs enfants grandir, effectivement, et qui veulent leur passer la main en souhaitant leur passer un outil qui puisse permettre à plusieurs familles de vivre. Voilà, c'est vraiment de l'enracinement local, du circuit court... Et c'est passionnant de travailler avec eux, en tout cas.
Oui, c'est ça. On parle bien de circuit court. Alors, on vous dit à longueur de colloque comme ça que c'est bien d'aller chez le producteur pour aller chercher son pot de miel, pour aller chercher ses tomates, pour aller chercher ses cagettes de légumes, etc. Et bien maintenant, ce sera bien aussi de consommer du gaz local dans votre chaudière. Et bien, il y aura peut-être du gaz normand dedans.
C'est ça. Et puis... Alors on parle souvent de là on parle de gisements agricoles, mais il y a aussi d'autres gisements, c'est les biodéchets par exemple.
Ah oui.
Et ça les collectivités vont mettre en place dans très peu de temps la collecte des biodéchets pour l'ensemble des citoyens.
Ça veut dire qu'en termes de circuit court, c'est nous-mêmes avec nos biodéchets qui produisons nous-mêmes notre gaz de notre chaudière.
Exactement.
Alors là, je résume vraiment le truc. Hein.
Non, mais c'est exactement ça. Maintenant, nos biodéchets, enfin l'alimentaire, on est bien d'accord que le but, c'est pas de créer des déchets.
Non.
C'est-à-dire que de consommer ce qu'on a juste normalement, à consommer normalement. Mais on sait très bien qu'en France, malheureusement, 25% de la production agricole... et jeté. Et ça, c'est un véritable scandale. Et donc, si on peut valoriser ces déchets en produisant de l'énergie, c'est quand même mieux que de les brûler en consommant de l'énergie.
Bien sûr. Voilà. Déjà ça, ce serait bien déjà d'en redistribuer à ceux qui vraiment peuvent pas...
c'est la première chose. Voilà. La deuxième chose, c'est de ne pas jeter.
Et puis, il reste les épluchures, de toute façon.
Exactement. Donc là, vous avez deux filières, hein, soit le compostage, soit la méthanisation. Et donc ça va être de plus en plus valorisé. Actuellement, uniquement les producteurs de plus de 10 tonnes de déchets, donc type restaurants scolaires et autres, ont une obligation de valoriser ces biodéchets. Mais en 2024, effectivement, là, ce sera l'ensemble des Français qui devront... voilà.
Donc est-ce qu'on sait s'il y a des agglomérations pilotes ou qui ont déjà testé un peu le principe ?
Alors, il y a des tests, effectivement... peu en Normandie, alors il y en a quelques-unes en Île-de-France, en Alsace et autres, mais on voit que les collectivités là commencent à s'intéresser puisqu'elles vont être obligées de mettre en place ce système. Et puis on voit des sociétés aussi qui ont créé qui ont saisi l'opportunité, qui voient justement un créneau où il n'y a pas de collecte actuellement qui est faite. Et au lieu de brûler ces déchets, ben, ils vont venir les collecter et puis les apporter aux unités de méthanisation. Voilà.
D'accord.
Donc ils forment les restaurants au tri et puis ils les amènent directement en méthanisation.
Super.
Voilà. Et donc les restaurants, au lieu de payer une taxe finalement, vont payer cette société pour valoriser leurs biodéchets. Là, il y en a de plus en plus.
Bon, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Est-ce que le gaz qu'on recevra de ces productions vertes et locales aura un label ?
Alors,
ce sera labellisé local ou gaz vert ou choses comme ça ?
Alors, lorsque vous souhaitez souscrire à une offre de gaz vert, vous allez aller voir votre fournisseur, vous allez lui demander. Alors, vous pouvez prendre 100% de gaz vert ou alors une partie. Et vous allez pouvoir, effectivement, vous allez avoir des garanties d'origine où vous pourrez demander, effectivement, je souhaite que le gaz vert soit peut-être de l'unité qui est la plus proche de moi. Alors pour l'instant, ça se met en place. Hein. C'est pas encore effectif.
Mais effectivement, on pourrait éventuellement choisir un producteur dans notre circonférence, dans la circonflexion, dans le coin,
circonscription,
dans la circonscription.
Non, mais voilà, on pourra dans le futur demander à avoir du gaz vert de Fécamp, quoi, de l'agglo de Fécamp par exemple.
Waouh, ça va être chouette.
Voilà, sachant qu'il y a déjà deux unités qui injectent et il y a plusieurs projets qui arrivent.
Arnaud de GRDF qui nous aura vulgarisé un petit peu tout ça pour comprendre justement. C'est à ça que ça sert aussi la solitaire du Figaro, mine de rien, ça nous apporte plein de connaissances, plein de choses curieuses au-delà des bateaux, au-delà de la course. Voilà, on s'intéresse à pas mal de choses. On a nos amis créoles qui sont repartis à faire la fête en face avec Caracra, etc. Donc je crois qu'on va pouvoir faire une pause musicale aussi. Merci beaucoup,
c'est ça,
Arnaud, de ta présence et de nous avoir expliqué tout ça.
C'était un plaisir.
Eh ben, c'est un plaisir partagé. Warren, je te propose que nous fassions une petite pause avant de refaire gagner des petits lots,
okay,
que ce soit à nos auditeurs comme aux personnes qui nous visitent sur le parc. Donc on vous laisse un peu avec la programmation musicale de Radar qui est faite évidemment au Radar. Et quant à nous, on se retrouve dans... On va faire une bonne...
Bah, on se retrouve au Radar.
Ouais, une petite demi-heure de pause. On va voir un petit peu comment ça va se... Comment ça va
peut-être se un peu moins.
On va voir. Allez, à tout à l'heure en tout cas.
Vous écoutez Radar.